du devoir d'État, des résolutions concrètes, si vous voulez, en fin de retraite. Donc, comme je vous l'avais dit à la première instruction, en commençant dimanche soir, que le but d'une retraite, spécialement de cette retraite, c'était d'apprendre à essayer de devenir un petit peu Marie, enfin, tout en restant Marthe, mais plutôt rester Marthe avec le cœur de Marie. Donc, je vous lisais ce passage où notre Seigneur reprochait à Marthe d'être trop soucieuse, trop préoccupée par les questions matérielles, au détriment un petit peu d'une union plus spirituelle. Donc, si vous avez fait cette retraite, c'est justement dans le but de devenir spirituel, enfin plus spirituel. Mais malgré tout, bon, il ne s'agit pas pour autant que vous rentriez demain au couvent. Je pense qu'il y en a au moins un qui ne serait pas très content, pour celles qui sont mariées. Enfin, je pense au moins, j'espère. Donc, il s'agit que vous restiez Marthe, mais avec le cœur de Marie. Alors, le but de cette instruction, c'est justement de vous aider un petit peu à essayer de voir sur quel point axer vos efforts après la retraite, afin que les fruits de la retraite ne soient pas perdus, dissipés en quelques jours ou en quelques semaines. Donc, cette retraite est garantie combien de temps? Une semaine? 6 mois? 1 an? Ça dépendra un petit peu des résolutions que vous pourrez prendre dans ce domaine. Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la vie est brève, que la vie est courte, et donc que le temps que le bon Dieu nous donne est précieux. Donc ça, c'est le premier point, se dire qu'il n'y a pas de temps à perdre, que la vie est courte, et que le temps que le bon Dieu nous donne donc est précieux. Et là, je vous livre ce que disait l'abbé Berthaud, la nature humaine étant toujours la même. C'est une lettre qui a été écrite en 1933, mais elle resterait encore valable aujourd'hui. Une lettre que M. l'abbé Berthaud adressait aux anciennes élèves des Ursulines de Vannes. Donc il commence cette lettre en disant « Dormir tard, lire des romans, faire durer le plaisir du dessert, recevoir et rendre des visites, s'élargir en discours sur la dernière saison ou le prochain spectacle. » Enfin, c'est pas les résolutions de fin de retraite, là. Vous ne l'avez pas compris. Non, non, la phrase n'est pas terminée. La jeune fille a-t-elle vraiment été créée et mise au monde pour gonfler ses bulles creuses? Et ensuite, il dit, « Celle-là même qui ne se découvre pas d'autres occupations n'oserait l'affirmer. Mais, disent-elles, il faut tuer le temps. Le temps est le grand ennemi dès qu'on prend conscience de ce qu'il est. Il effraie, il écrase par son vide illimité, par son immensité formidable. Il faut en exterminer l'idée. Il faut qu'il s'écoule sans que nous en apercevions. Le moyen, c'est de remplir nos journées d'amusements et débats. Après avoir ri tous les jours, plaisanté, dansé, tourbillonné, papillonné, nous attendrons la nuit et nous recommencerons le lendemain. C'est ce que nous appelons tuer le temps. Je ne sais si la chose est aussi facile qu'elle en a l'air. Le temps ne se laisse pas tuer si aisément. J'ai entre les mains les lettres d'un jeune homme, élevé loin de toute pratique et même de toute croyance religieuse. Ces lettres sont un terrible dossier d'accusation contre ceux qui privent l'enfance et l'adolescence des sublimités chrétiennes. Elles sont aussi un commentaire navrant du mot de saint Augustin « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne trouve pas en vous son repos ». Je prends ce seul passage. Donc un jeune homme qui écrivait à l'abbé Berthaud. Je suis rond de cuir et j'ai un travail sans intérêt dans une carrière qui ne me plaît pas. Bon, c'est encourageant. En dehors du bureau, des occupations que tu qualifierais de futiles et qui me le paraissent souvent, mais il faut tuer le temps. Tuer le temps, quel problème? Je n'y apporte pas souvent de solution agréable. Les jours d'ennui, il y en a beaucoup. Il arrive que je souhaite d'éprouver en 1 heure les émotions de 3 mois et de disparaître pendant ces 3 mois pour recommencer ensuite. Je suis comme une molle chrysalide qui se laisse flotter sur ces ternes journées, je m'ennuie. Je n'ai pu et ne pourrai sans doute pas me guérir de cet ennui qui me ronge. Je crois avoir gardé un peu d'intelligence, mais malgré moi et sans y penser. Bientôt, sans doute, cette faculté de clairvoyance disparaîtra. Je serai alors pareil à une cruche parmi des millions de cruches. Ce ton désenchanté, cette désespérance ne trompe pas. Tous les efforts ont été vains. Tuer le temps est une entreprise surhumaine. On peut s'y acharner, on n'en viendra jamais à bout. Saint Paul tient un autre langage. À deux reprises, il fait cette exhortation « racheter le temps ». Donc Éphésiens chapitre 5, verset 16 et Colossiens chapitre 4, verset 5. Alors il explique, après il commente ce que ça signifie « racheter le temps ». Les gens du monde cherchent à tuer le temps. L'homme de Dieu, le chrétien, doit chercher au contraire à racheter le temps. Ce qui n'a pas de valeur ne s'achète pas. On se le procure sans bourse déliée ou l'on s'en passe. S'il faut acheter le temps, c'est donc que le temps a une valeur. Encore le Saint-Apôtre ne dit pas de l'acheter, mais de le racheter. Cette nuance n'est pas négligeable. Elle est seulement difficile à saisir et à exprimer. Ainsi en est-il souvent dans ces merveilleuses épîtres. Saint Paul laisse beaucoup à faire à son lecteur. Non, certes qu'il ne lui laisse rien à deviner. Il n'y a point ici de place pour le jeu de la fantaisie, ni qu'il lui laisse rien à ajouter. Tout est dit. Mais il lui laisse à méditer, à approfondir, à analyser. Donc après, il va développer donc ce que signifie racheter le temps. On rachète quand on a perdu un objet indispensable, un autre objet de même espèce. On rachète l'objet même qu'on possédait, dont on avait cru qu'on pouvait se séparer, quand on en découvre après coup la nécessité. On rachète d'une denrée si coûteuse qu'on n'en aurait pas assez de capital pour en acheter beaucoup à la fois. On rachète par économie, pour éviter le gaspillage ou l'affadissement d'un produit qu'on aurait sous la main en trop grande abondance. Par-dessus tout, racheter suppose qu'on connaît bien la valeur de l'objet. C'est parfois erreur d'acheter, ce serait sottise de racheter. Il ne faut pas tomber deux fois dans le même piège. Racheter le temps, c'est donc, alors là il va donner la définition maintenant, racheter le temps, c'est donc l'acheter à chaque instant comme une chose précieuse, comme une chose rare. C'est s'en emparer, pour ainsi dire, et n'en point laisser perdre une parcelle. C'est l'économiser diligemment. Et alors ensuite, il prend une image et dit que le temps, en fait, le bon Dieu nous le donne goutte à goutte. Et il faut toujours être prêt à le saisir pour essayer d'en tirer profit par une bonne œuvre. Avec une attention toujours en éveil, il faut le prendre tandis qu'il s'enfuit, et pour notre titre de possession, le marquer du sceau de notre activité surnaturelle. Racheter le temps, c'est cela. Donc racheter le temps, c'est faire en sorte que le temps qui nous est donné, on puisse l'utiliser de telle sorte qu'il soit pour nous source de vie surnaturelle. Donc qu'est-ce qu'il va rester à notre mort ? Tout ce qu'on aura fait en dehors de Dieu, eh bien, disparaîtra. La seule chose qui sera notre consolation au moment de mourir, c'est tout ce qu'on aura fait pour le bon Dieu. Donc si on veut, on peut dire que c'est ce que notre Seigneur d'ailleurs nous a dit, de ne pas chercher à mettre notre trésor sur la terre où les voleurs peuvent ronger ou peuvent nous voler, mais il faut faire en sorte que notre trésor soit mis au ciel. Et chaque bonne œuvre que nous pouvons poser ici-bas est pour nous source méritoire de la vie éternelle. Donc c'est cela, racheter le temps. Faire en sorte que tout le temps qui nous est donné, on le passe à faire du bien. Les saints ont été de grands racheteurs de temps. Lisez dans la biographie du curé d'Ars ou de Saint Jean Bosco, lisez le récit d'une de leurs journées. Vous serez stupéfait de voir tout ce qu'ils ont pu loger d'occupation dans ce court espace de 24 heures. Si la comparaison n'était un peu vulgaire, je dirais que la journée d'un saint est une valise bien faite. Les saints ont ménagé le temps comme ceux qui sont forcés de voyager souvent ménagent l'espace dans leur valise. Une grande partie de leur fécondité surnaturelle est venue de là. Au soir de son ordination, Saint Jean Bosco notait la résolution suivante. « J'emploierai scrupuleusement mon temps. » On s'étonne moins de la prodigieuse richesse de sa vie quand on sait qu'il avait écrit un jour cette courte phrase. Assurément, cette résolution n'eût pas suffi à elle seule. Mais rien ne suffit sans elle, sans cette volonté énergique de racheter le temps. Or, ces saints n'ont jamais connu l'ennui. Un saint n'a jamais dit « Tuer le temps, quel problème ?» Pour lui, le problème ne se pose pas. Ici encore, la loi de perfection qui anime le christianisme est à la fois austère et joyeuse. Le seul moyen de tuer le temps, c'est de le racheter. Donc, première chose, si on veut faire en sorte que notre vie soit féconde, prendre conscience de la valeur du temps. Ensuite, une fois qu'on a compris que le temps est important et qu'on n'a pas de temps à perdre, eh bien, la chose suivante à faire, c'est l'inventaire de ses devoirs. Pour reprendre l'image de l'abbé Berthaud, avant de partir en voyage, on vérifie qu'on n'a rien oublié. On essaie de mettre tout ce qu'il faut dans sa valise. Eh bien là, c'est un petit peu pareil. Pour ne pas négliger certains de ses devoirs, il faut commencer par faire l'inventaire de ses obligations. Alors ici, bien sûr que les obligations sont différentes. Vous avez au cours de cette retraite entre 18 et 86 ans. Donc il est évident que vous n'avez pas forcément exactement les mêmes préoccupations. Donc là, c'est à chacun de voir, en fonction donc, de son âge, de ses activités habituelles, donc comment donc faire cet inventaire. Mais il importe, en tout cas, c'est ce que nous faisons d'ailleurs, même dans le ministère, on commence par planifier son travail avant de l'exécuter. Donc il faut essayer d'abord de savoir à peu près quelles sont toutes les activités que nous devons faire. Donc il y a des activités que l'on fait chaque année, par exemple la retraite, d'autres une fois par trimestre, d'autres une fois par mois, d'autres une fois par semaine, d'autres tous les jours. Donc on essaie ainsi de classer à peu près tout ce que l'on a à faire. Ensuite, après avoir fait l'inventaire, même à la limite en vrac de ce que l'on a à faire, ensuite on essaie de classer ses devoirs par priorité. Donc on essaie d'abord de savoir tout ce qu'on a à faire, ensuite on classe. Un saint évêque disait « Puisque j'ai toujours plus de travail à faire que de temps pour le faire, je commence par déterminer ce qui est le plus important et j'abandonne le reste à la Providence. » Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le souci pèse sur l'âme. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas organisé, vous pensez, donc vous faites quelque chose, bien sûr, vous vous occupez, et en même temps, vous pensez à tout ce qui vous reste à faire. Et le fait d'avoir cette préoccupation de tout ce qui vous reste à faire, ça pèse sur votre âme. Donc ça enlève la disponibilité pour bien faire, pour être vraiment pleinement dans l'instant présent. Tandis que si vous vous organisez mieux, vous aurez planifié un temps pour chaque chose, et par conséquent, vous ne serez pas soucieuse de ce qui vous reste à faire, parce que vous savez que vous avez prévu un temps pour le faire. Ou au contraire, vous aurez appris à élaguer en disant, ben ça tant pis, n'importe comment, je ne peux pas le faire aujourd'hui, donc je le ferai demain ou je le ferai plus tard. Et pour éviter de rester trop dans le vague, eh bien, il est bon, spécialement à la fin d'une retraite, d'essayer de faire un règlement de vie. Là, je vais vous lire quelques réflexions qui me semblent tout à fait justes, tirées d'un livre écrit par un dominicain, le père Rimbaud. Je ne me rappelle plus à quelle époque il a écrit ça, je pense peut-être dans les années 30 ou 40. Mais là, la nature humaine encore étant la même, ça reste tout à fait juste. Donc c'est un livre intitulé « Pour la vie intérieure ». Et il y a un chapitre sur le règlement de vie. « Chose bien affligeante, donc dit le père Rimbaud, que de voir des personnes chrétiennes, même parfois apparemment pieuses, il dit pas pieuses, il dit apparemment pieuses, dont la vie quotidienne respire le désordre, le décousu. Tout ou presque tout y est livré aux caprices du moment, au hasard des circonstances, au petit bonheur des rencontres. Des vies qui tourbillonnent sans cesse dans le vide. Existence creuse, superficielle. Beaucoup d'agitation, peu d'action. Du sable perpétuellement mouvant comme base à la piété, d'où impuissance de développement sérieux. Vie fatigante pour celle qui l'amène, et plus encore, peut-être pour leur entourage. De ces vies, il y en a tant. » Alors, ensuite, après avoir fait ce constat, si vous voulez, négatif, il arrive au remède. « À tout prix, soumettre son existence à une certaine règle qui en organise les actions principales et accroisse ainsi son rendement. » Alors, quelles sont les actions qui demandent à être prévues, réglées? Avant tout, le point régulateur de toute la journée, l'heure du coucher et du lever. C'est le premier point. Quand des gens, en général, me demandent conseil pour leur vie spirituelle, pour essayer d'avoir une vie spirituelle équilibrée, je commence par leur dire « À quelle heure vous couchez le soir ?»« Non, mais attendez, vous n'avez pas compris, moi, c'est spirituel ce que je vous demande. À quelle heure vous couchez le soir ?» Bon, je ne vois pas le rapport, ben, moi, je le vois. Parce que l'expérience montre que si vous vous couchez tard, d'une façon habituelle, et les gens du monde dans l'ensemble se couchent tard par rapport aux religieux, bien, soit vous vous lèverez plus tard le matin, soit vous vous lèverez de bonne heure, mais si vous levez de bonne heure et que vous n'avez pas votre compte de sommeil, vous marcherez au radar le lendemain, et ce ne sera pas non plus l'idéal. Donc, si vous voulez avoir une vie intérieure, eh bien, le premier point, c'est ne pas vous coucher trop tard. Et dans l'ensemble, les gens du monde se couchent tard. Parce qu'après, c'est un cercle vicieux. Il est évident que si vous vous levez tard, eh bien, vous aurez du mal à donner au bon Dieu la première place dans votre journée. Si vous ne donnez pas au bon Dieu la première place, votre journée sera plus humaine que surnaturelle. Vous serez plus Marthe que Marie. Et par conséquent, eh bien, toute la journée, vous allez essayer de rattraper le temps perdu. Et vous n'arriverez pas, et c'est pour ça que le soir, vous coucherez tard, justement, parce que vous n'aurez pas pu faire dans la journée ce que vous vouliez faire. Et résultat, en vous couchant tard, après, c'est un cercle vicieux. Parce que si vous vous apprenez à ne pas vous coucher trop tard, eh bien, en vous levant ensuite à heure fixe, à peu près, vous commencez par donner le temps au bon Dieu, la journée commence bien, si elle commence bien, il y aura des chances qu'elle se termine bien. Remarquez que les religieux, donc, enfin, ceux qui sont un peu des modèles pour de vie intérieure, c'est quand même les religieux. Et dans tous les ordres religieux, on se couche de bonne heure. On a une vie régulière, on mange à heure fixe, on a des activités régulières, on prie à heure fixe, et on ne se couche pas trop tard. On ne demande pas de coucher comme les capucins à 8 heures du soir, c'est pas ça. Mais en tout cas, ne pas vous coucher trop tard. C'est certain. Et nous, prêtres, on le constate. Bon, maintenant, ici, c'est beaucoup plus facile au séminaire, parce qu'on a une vie qui est très, très régulière. Pendant les 8 ans où j'étais à Lyon, parfois, on allait chez les fidèles. D'ailleurs, on y allait rarement chez les fidèles le soir. C'est d'ailleurs dans nos statuts. Les prêtres, normalement, ne doivent pas aller chez les fidèles le soir, parce qu'on se couche trop tard. Et après, quand on se couche tard nous-mêmes, on constate que le lendemain matin, on a plus de mal. Parfois, c'est nécessaire, parce que pour des réunions, il n'y a que le soir que les fidèles sont disponibles. Donc là, on peut très bien y aller. Mais on constate qu'ensuite, quand on se couche tard, eh bien, le lendemain, c'est plus dur. Donc d'abord, l'heure du coucher et l'heure du lever. Et le Père Rimbaud disait, on ne saurait trop insister là-dessus. C'est de cela que dépend en grande partie la vie spirituelle, le temps pour toute chose et jusqu'à l'ordre matériel d'un intérieur. Sauf circonstance spéciale, se coucher tôt et se lever tôt. Le jour est fait pour travailler, la nuit pour se reposer. Ah bon ? Ben oui. On ne gagne jamais rien et on perd souvent beaucoup à se mettre en marge de l'ordre providentiel, à vouloir faire de la nuit le jour et du jour la nuit. Ensuite, prévoir les exercices de piété fondamentaux. Donc là, après, c'est à chacun de voir, en fonction de ce que vous faisiez déjà, en fonction de ce que vous pouvez faire, en fonction de vos obligations aussi familiales. Donc la prière du matin, bien sûr, prière du soir, bon, le chapelet. Donc prévoir, l'oraison, bien plusieurs ont pris la décision de faire l'oraison, c'est très bien. Donc il faut essayer de prévoir les exercices fondamentaux. Lecture spirituelle, peut-être. Alors après, comme dit très bien le Père Rimbaud, et ça montre une certaine souplesse, chacun de ces exercices doit avoir son moment marqué. Il pourra bien arriver, il arrivera même sûrement, plus d'une fois, que pour telle ou telle raison, on devra les reporter à un autre instant. Et il faudra alors le faire sans aucune hésitation, s'il y a motif valable. Mais s'obliger à une heure régulière pour les journées régulières aidera grandement à y rester persévéramment fidèle, à ne les point sacrifier pour un futile prétexte. On constate par exemple que les fidèles ont plus de mal à avoir une vie équilibrée presque pendant les vacances que pendant la période du travail. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant la période du travail, on est pris par des horaires, donc ces horaires fixes nous obligent à essayer de fixer un temps pour chaque chose. Tandis que pendant les vacances, on se laisse un peu plus aller, et du coup, c'est la vie spirituelle qui en souffre. Ensuite, prévoir les occupations principales. Alors, c'est là que ça dépend beaucoup de votre état de vie, chacune. Et simplement, la règle à donner, que le règlement de vie soit assez précis pour laisser le moins possible à l'imprévu, et en même temps assez souple pour pouvoir s'adapter aux diverses circonstances. Donc, il y a des gens qui, ensuite, quand ils font un règlement de vie, ils font un règlement de vie qui est tellement... On a l'impression que c'est comme si on mettait un vêtement qui est trop étroit pour soi, donc on tient un moment, puis après on craque le vêtement. Eh bien là, c'est pareil. Donc si vous faites un règlement de vie qui est trop strict, vous ne le tiendrez pas, et donc ça ne servira à rien. Donc il faut qu'il garde quand même une certaine souplesse. En même temps, assez souple pour pouvoir s'adapter aux diverses circonstances, pour garder à sa vie une certaine aisance qui la rende plus aimable. Une judicieuse liberté de décision qui atteste une intelligence capable de sage réflexion et une volonté point entêtée, mais toujours aux ordres de l'intelligence. Ce mot s'écrit par un dominicain. Et c'est tout à fait juste, c'est bien. Ensuite, après, donc, il conseille de faire, après avoir établi son règlement de vie, le faire contrôler par son directeur, si on en a un. Et ensuite, alors, première illusion à éviter, croire que du seul fait qu'on s'est tracé un règlement de vie, tout va aller désormais pour le mieux. Et non, il reste encore à l'observer. Il reste à l'observer et les difficultés sont de tous les jours puisque toute notre vie comporte la lutte. De même que le directeur aide, stimule, mais ne peut agir au lieu et place de l'âme qu'il dirige, ainsi le règlement de vie précise, rappelle, excite, mais demeure inévitablement subordonné quant à son observation à la générosité personnelle de l'âme qu'il a élaborée. Comme il faut souhaiter qu'elle l'observe intégralement. Elle y trouvera de si grands avantages. Alors il montre ensuite, c'est la pub pour le règlement de vie, quelques avantages. Avec un règlement de vie fidèlement observé, on a du temps pour tout. Que les journées sont grandes quand on sait n'en rien gaspiller. Par exemple, le téléphone, le temps qu'on peut passer au téléphone. Bon, c'était une parenthèse. Que de devoirs, de choses utiles et même de saines distractions y peuvent trouver place. Il en va tout autrement pour les personnes à la vie décousue. Elles se démènent beaucoup dans des flux de paroles, dans des démarches précipitées, dans des courses répétées. Et le soir venu, on les entendra gémir. Encore une journée, j'ai pas pu faire le quart de ce que je voulais faire. La chrétienne qui, dans un esprit surnaturel, s'applique à suivre un sage règlement de vie, approuvé par son directeur, use saintement du temps que Dieu lui prête. Elle conforme sa volonté à la sienne. Comme lui, elle a mis de l'ordre partout. Et ainsi risque beaucoup moins de sacrifier l'essentiel au secondaire, l'important à des futilités. Avec une vie réglée, il y a un grand calme communiqué à l'âme. Pourquoi s'inquiéter, s'enfiévrer ? On sait que chaque chose se fera en son temps, puisqu'un instant spécial a été prévu pour elle. Et quel ascendant sur les autres acquiert vite la personne qui demeure habituellement dans le calme, qui sait toujours se posséder, dont la vie diffuse une apaisante sérénité. On voit là un signe de supériorité morale. Puisqu'on aime avoir affaire à de telles personnes, que d'appréhensions supprimées, que de resserrements intimes évités. Certaines personnes très occupées trouvent le moyen de vous écouter comme si elles n'avaient autre chose à faire que de vous entendre. Certaines autres qui dilapident une partie de leur existence vous écoutent toujours en affairé, ayant hâte de vous renvoyer. Entre celle-ci et celle-là, le choix est vite fait, quand il s'agit de donner sa sympathie et sa confiance. Le règlement de vie introduit de l'exactitude dans la vie. Chose précieuse pour soi et pour les autres. Être en retard, c'est presque toujours se nuire auprès de ceux qui attendent. Bien vite, il commence à causer défavorablement de celui qui devrait être là et qui ne vient toujours pas. D'autre part, ceux qui savent le prix du temps n'acceptent point volontiers qu'on leur en fasse perdre. Enfin, et ce n'est pas le moindre profit, le règlement de vie aide efficacement à contracter les habitudes de se vaincre. Vous voyez, on vous a beaucoup parlé de la croix, la nécessité du sacrifice. Eh bien, c'est cela. Le premier sacrifice, c'est cela. C'est apprendre à essayer d'abord de savoir ce que le bon Dieu attend de vous, et puis après, ou alors beaucoup de gens disent « mais je ne sais pas où est la volonté de Dieu ». Bien justement, il faut essayer d'établir un règlement de vie, et ensuite, si vous l'avez soumis au supérieur, c'est cela la volonté de Dieu, il faut essayer ensuite de l'observer. Et l'esprit de sacrifice, c'est justement savoir bien sacrifier ses fantaisies en faisant son devoir d'État. Enfin, et ce n'est pas le moindre profit, le règlement de vie aide efficacement à contracter des habitudes de se vaincre. Souvent, il coûte. On aimerait tant parfois se laisser aller à l'imprévu, à ses fantaisies, agir à sa guise. Et voilà le règlement de vie qui l'interdit, qui réfrène, qui impose ceci ou cela. Alors pour lui rester fidèle, malgré tout, on se renonce, on accomplit un acte pénible. Et c'est ainsi qu'on fortifie sa volonté, peut-être encore bien faible, qu'on développe en soi l'esprit de sacrifice dont on a tant besoin pour être ce que l'on doit être. Une place pour chaque chose à sa place. C'est là tout le règlement de vie. Et de l'observer courageusement résultera davantage de sanctification pour votre âme, davantage de bonheur pour votre existence, davantage de fécondité de vie. Et c'est certain. Et voilà. Donc pour le règlement de vie. Alors ensuite, après, pour les questions de détail alors, dans votre vie, là aussi, faut éviter de tomber dans le scrupule. Il y a des âmes qui sont toujours inquiètes, qui ne savent jamais si ce qu'elles font, c'est la volonté de Dieu ou si ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, il y a un chapitre là-dessus dans le traité de l'amour de Dieu de Saint François de Sales, qui est intitulé « Brève méthode pour connaître la volonté de Dieu ». Et où saint François de Sales va expliquer que bon, lorsqu'il s'agit de discerner des choses très importantes, comme la vocation, l'état de vie, là on n'a pas le droit à l'erreur, et par conséquent il faut bien réfléchir avant d'agir. Donc il faut réfléchir, il faut éventuellement prendre conseil auprès de deux ou trois personnes sages, parce qu'on est difficilement juge et parti, et puis enfin il faut prier pour que le bon Dieu nous donne la lumière. Mais qu'en dehors des grandes lignes que l'on doit se fixer, eh bien, ensuite, il y a une certaine liberté que le bon Dieu nous laisse. Et donc, ce serait un petit peu tomber dans la superstition que de vouloir savoir toujours exactement qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Il faut se laisser aller, finalement, un petit peu vers ceux qui nous attirent le plus, s'il n'y a rien de mauvais. Donc, je vous lis ce que dit saint François de Sales, vous allez comprendre. Saint Basile dit que la volonté de Dieu nous est témoignée par ses commandements et qu'alors il n'y a rien à délibérer. Il faut faire simplement ce qui est ordonné. Donc les commandements, on doit les suivre. Mais que pour le reste, il est en notre liberté de choisir à notre gré ce que bon nous semblera, bien qu'il ne faille pas faire tout ce qui est loisible, mais seulement ce qui est nécessaire. Et qu'enfin, pour bien discerner ce qui est convenable, il faut ouïr l'avis du sage père spirituel. Mais Théotime, donc il s'adresse à Philothée dans l'introduction à la vie des votes et Théotime dans le traité de l'amour de Dieu. « Mais Théotime, je vous avertis d'une tentation ennuyeuse qui arrive maintes fois aux âmes qui ont un grand désir de suivre en toute chose ce qui est plus selon la volonté de Dieu. Car l'ennemi, en toutes circonstances, les met en doute si c'est la volonté de Dieu qu'elle fasse une chose plutôt qu'une autre. Comme par exemple, si c'est la volonté de Dieu qu'elle mange avec l'ami ou qu'elle ne mange pas, qu'elle prenne des habits gris ou noirs, qu'elles jeûnent le vendredi ou le samedi, qu'elles aillent à la récréation ou qu'elles s'en abstiennent, en quoi elles consument beaucoup de temps. Et tandis qu'elles s'occupent et embarrassent à vouloir discerner ce qui est meilleur, elles perdent inutilement le loisir de faire plusieurs biens, dont l'exécution serait beaucoup plus à la gloire de Dieu que ne saurait être le discernement du bien et du mieux auquel elles se sont amusées. » Après, il prend une comparaison et dit « On n'a pas l'habitude de peser donc la petite monnaie. » On regarde simplement les billets qu'on a dans sa poche. Enfin, maintenant, il n'y a plus de billets et les cartes, c'est différent. Mais on regarde ce qu'on a sur son compte, mais en gros, sans s'occuper des détails. Eh bien, il dit que c'est la même chose ici. « Il y a même de la superstition, dit-il, à vouloir faire cet examen. Car à quel propos mettra-t-on en difficulté s'il est mieux d'entendre la messe en une église qu'en une autre, de filer que de coudre, de donner l'aumône à un homme qu'à une femme ? Ce n'est pas bien servir un maître d'employer autant de temps à considérer ce qu'il faut faire comme à faire ce qui est requis. Il faut mesurer notre attention à l'importance de ce que nous entreprenons. Ce serait un soin déréglé de prendre autant de peine à délibérer pour un voyage d'une journée comme pour celui de 200 ou 300 lieues. » Et après, donc, il explique que pour la vocation, là, c'est différent. Le choix de la vocation, le dessein de quelque affaire de longue conséquence, de quelque œuvre de longue haleine ou de quelque dépense bien grande, le changement de séjour, l'élection des conversations, et telle chose semblable, mérite qu'on pense sérieusement ce qui est plus selon la volonté de Dieu. Mais parmi les petites actions journalières, parmi lesquelles la faute n'est ni de conséquence ni irréparable, qu'est-il besoin de faire l'embesogner, l'attentif et l'empêcher à faire des importunes consultations ? À quel propos me mettrais-je en dépense pour apprendre si Dieu aime mieux que je dise le rosaire ou l'office de Notre-Dame ? Puisqu'il ne saurait y avoir tant de différence entre l'un et l'autre, qu'il faille pour cela une grande enquête. Que j'aille plutôt à l'hôpital visiter les malades qu'à vêpres. Que j'aille plutôt au sermon qu'en une église où il y a indulgence. Il n'y a rien pour l'ordinaire et de si apparemment remarquable en l'une qu'en l'autre qu'il faille pour ceux entrer en grande délibération. Il faut aller tout à la bonne foi et sans subtilité en telles circonstances. Et comme dit saint Basile, faire librement ce que bon nous semblera pour ne point lasser notre esprit, perdre le temps et nous mettre en danger d'inquiétude, scrupules et superstition. » Donc là, on trouve, voyez, cette liberté des enfants de Dieu. Donc d'un côté, je vous ai dit que par le règlement de vie, il est nécessaire de fixer des grandes lignes, ça c'est vrai, mais d'un autre côté, il ne faut pas ensuite, après, se comprimer et se poser trop de questions, quoi. C'est fatigant, à la longue. Et après, même en conclusion, donc, il dit que parmi les choses même de conséquence, il faut être bien humble et ne point penser de trouver la volonté de Dieu à force d'examen et de subtilité de discours. Mais après avoir demandé la lumière du Saint-Esprit, donc prière, appliqué notre considération à la recherche de son bon plaisir, donc réfléchi, pris le conseil de notre directeur, donc prendre votre conseil. Et s'il y a lieu de deux ou trois personnes spirituelles, il se faut résoudre, donc parmi les choses importantes maintenant, il faut se résoudre et déterminer au nom de Dieu, il ne faut plus par après révoquer en doute notre choix. Donc une fois qu'on a pris une décision sur, qui touche donc notre état de vie ou autre, eh bien on réfléchit avant de prendre la décision, mais une fois que la décision est prise, on ne revient plus sur la décision. Sauf si, objectivement, on s'aperçoit que ce n'était pas cela. Si on a des signes objectifs, on peut s'appuyer sur ces signes. Mais sinon, si c'est juste aujourd'hui, à cette heure-ci, qu'est-ce que je pense qu'il vaudrait mieux ? Mais non. C'est pas comme ça qu'on agit. Donc, il faut se déterminer au nom de Dieu et ne faut plus, par après, révoquer en doute notre choix, mais le cultiver et soutenir dévotement, paisiblement et constamment. Et alors, après, il dit... Et bien que les difficultés, tentations et diversité d'événements qui se rencontrent au progrès de l'exécution de notre dessein nous pourraient donner quelques défiances d'avoir bien choisi, donc vous prenez une décision, et puis paf, il y a des tuiles qui se produisent, et bah, mince, j'ai peut-être mal choisi. Eh bien, Saint François de Sales dit, il faut néanmoins demeurer ferme, et ne point regarder tout cela, mais considérer que si nous eussions fait un autre choix, nous eussions peut-être trouvé 100 fois pire. Oui. Une fois qu'une décision, n'importe comment, est prise, spécialement qui regarde enfin, toute votre vie, une fois qu'elle est prise, elle est prise. Donc, c'est pas la peine de revenir dessus. Sauf, encore une fois, si vous pouvez revenir dessus, parce qu'il y a, si vous choisissez un métier que finalement vous constatez que c'est pas ça, si vous avez des signes objectifs et que vous pouvez trouver autre chose, à ce moment-là, vous pouvez chercher autre chose. Mais si c'est simplement une impression, bon, après, il faut voir dans les cas particuliers. Outre que nous ne savons pas si Dieu veut que nous soyons exercés en la consolation ou en la tribulation, en la paix ou en la guerre. La résolution étant saintement prise, il ne faut jamais douter de la sainteté de l'exécution. Donc ça, c'est encore un autre principe. Si vraiment vous avez fait tout ce qui dépendait de vous pour savoir ce que Dieu attendait de vous, vous avez pris une résolution donc, qui était sainte, bien, l'exécution le sera aussi. Car s'il ne tient à nous, elle ne peut manquer. Et après, saint François de Sales conclut en disant... Faire autrement, c'est une marque d'un grand amour-propre ou d'enfance, faiblesse ou niaiserie d'esprit. Bon. Donc maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc, vous avez classé vos charges, vous avez hiérarchisé, vous avez prévu un temps pour chaque chose dans les grandes lignes, vous les avez soumis à un directeur. Maintenant, il reste à voir comment accomplir ces différents devoirs. Donc, s'il est vrai que l'emploi du temps, déjà, nous aide à discerner la volonté de Dieu, il est encore nécessaire de voir comment faire fructifier le mieux possible nos talents par l'accomplissement de notre devoir d'État. Donc, vous avez choisi les activités à faire. Maintenant, il y a la manière dont vous allez faire votre devoir d'État. Donc, la première chose, déjà, c'est qu'il faut toujours entretenir en soi un désir de mieux faire, un désir de progresser spirituellement. Donc ça, c'est la première attitude de l'âme. On doit toujours avoir un désir de mieux faire. Pourquoi ? Parce qu'il en est de la vie spirituelle comme de la vie aussi temporelle, on peut dire. Celui qui n'avance pas recule. Et donc, il faut avoir ce désir de mieux faire pour avancer. Ô, dit saint Bernard, tu ne veux pas t'avancer en imperfection ? Non. Et tu ne veux pas non plus reculer ? Non. Et quoi donc ? Tu ne veux ni être ni meilleur ni plus mauvais. Hélas, pauvre homme, tu veux être ce qui ne peut être. Rien ici-bas n'est stable ni ferme. Mais cela est encore plus vrai de l'homme. Il faut donc qu'il avance ou qu'il recule. Donc, celui qui n'avance pas, recule. Celui qui n'avance pas, recule, mais seulement dans le domaine spirituel. Et c'est là, justement, qu'il faut toujours éviter ces introspections constantes qui sont fatigantes. Comme je le disais, c'est que plus on avance vers la perfection... bien plus on peut avoir l'impression qu'on recule, et c'est normal. Un saint ne vous dit pas, ça y est, je suis saint. Vous connaissez cette histoire, là, en Italie, d'une religieuse, on disait qu'il y avait une religieuse qui était sainte, et un prêtre avait voulu la voir, et donc il sonne au couvent, et puis il dit, je voudrais parler à la sainte. Et alors, la personne qui ouvrait, donc la religieuse qui ouvre, dit, c'est moi. Au revoir, ma sœur. Donc, au contraire, on constate que c'est ce que dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans son autobiographie. Elle dit « Plus on avance vers le chemin de la perfection, plus on se croit éloigné du terme. Et la conséquence pratique pour elle, elle disait, « Aussi maintenant, je me résigne à me voir toujours imparfaite et j'y trouve ma joie. » Donc ne pas se décourager à la vue de sa misère, mais continuer à rechercher malgré tout le progrès spirituel. Ensuite, dans nos actions, préférer toujours la qualité à la quantité. Et spécialement, donc, comment faire en sorte que nos actions aient une qualité meilleure, puissent avoir un meilleur prix. Tout d'abord, la pureté d'intention. L'homme voit le résultat, pour l'homme c'est le résultat qui compte, pour Dieu c'est le cœur. Ça vous l'avez bien compris, on a parlé de la charité pendant toute cette retraite. Eh bien, si vous pouviez retenir cela, ce serait très bien déjà de cette retraite. C'est que Dieu voit la disposition d'âme. La Sainte Vierge à Nazareth, elle faisait des actions qui étaient tout ordinaires, mais elle les faisait avec un tel amour de Dieu que chacune de ses actions la faisait grandir en sainteté. Donc ce n'est pas la grandeur de l'action qui en soi compte aux yeux de Dieu, mais le cœur que l'on y met. Saint François de Sales dit « C'est faire excellemment les petites actions que de les faire avec beaucoup de pureté d'intention et une forte volonté de plaire à Dieu. Alors, elles nous sanctifient grandement. » Alors, il prend une comparaison, il dit « Il y a des personnes qui mangent beaucoup et sont toujours maigres, exténuées parce qu'elles digèrent mal. Il y en a d'autres qui mangent peu et qui sont toujours en forme parce qu'elles ont un bon estomac. Ainsi, y a-t-il des âmes qui font beaucoup de bonnes œuvres et qui grandissent peu en charité, parce qu'elles les font froidement ou encore par instinct et inclination de nature plus que par inspiration de Dieu ou ferveur céleste. Et au contraire, il y en a qui font peu de besogne, mais avec une volonté et une intention si sainte qu'elles font un très grand progrès dans l'amour de Dieu. Elles ont peu de talent, mais elles le ménagent si bien que le Seigneur les récompense grandement. » Donc, toujours travailler à la pureté d'intention. D'où, justement, l'intérêt de l'oraison, vous voyez. L'oraison, normalement, à la fin de l'oraison, on doit toujours essayer de voir la journée que l'on... d'essayer de passer en revue la journée qui va commencer et d'essayer de l'offrir au bon Dieu avec, justement, un cœur pur et généreux. Et si on le fait, certainement, qu'à la longue, eh bien, nos actions seront plus méritoires. Avant de commencer une activité, essayez de, ne serait-ce que un simple regard de l'âme vers Dieu, apprendre à vivre près du bon Dieu est très profitable. On n'est pas obligé de faire de longues prières, c'est simplement notre cœur, encore une fois, qui compte. Et évitez toujours les deux écueils, l'empressement et la négligence. L'empressement nous fait perdre ce contact avec Dieu. Sauf à certains moments, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut être à la bourre et puis donc il faut y aller, quoi. C'est normal, c'est la vie, mais il ne faut pas que ce soit constamment comme cela. Et puis la négligence, doucement le matin, pas trop vite le soir, c'est pas tout à fait ça non plus, quoi. Sanctifier le moment présent. Donc on a vu désirer progresser, préférer la qualité à la quantité, vivre l'instant présent. Toujours se dire cela, le bon Dieu est dans le présent. Pour le bon Dieu, il n'y a ni passé ni futur. L'éternité, c'est un présent. Donc si on veut être uni au bon Dieu, on doit vivre dans l'instant présent. L'instant présent, c'est la volonté de Dieu. Le passé est passé, on n'y peut rien, donc il faut savoir abandonner le passé à la miséricorde du bon Dieu. Le futur ne nous appartient pas encore, il faut l'abandonner à sa providence. Et le démon a justement une très grande prise sur notre imagination. Donc il peut très bien faire grossir à merci les événements passés ou futurs pour nous conduire au découragement. Et nous, on regarde et on se fait avoir. Donc il faut le remède, c'est l'instant présent. Voici ce que disait Monseigneur Fège, en 1920, sur cette sanctification du moment présent. Saint François de Sales, voulant faire arriver une âme à une haute perfection, lui écrivait « Pensons seulement à bien faire aujourd'hui. Quand le jour de demain sera arrivé, il s'appellera aussi aujourd'hui, et alors nous y penserons. » Et donc, Mgr Fège commentait en disant « Il y a dans ces paroles un programme admirable, un secret merveilleux de sainteté. C'est la pratique de la sanctification du moment présent. Cette pratique d'une sagesse, d'une simplicité, d'une efficacité incomparable est en même temps de la plus grande et de la plus haute importance. Sanctifier le moment présent, c'est concentrer sur ce moment, le seul qui nous appartienne, et pour le passer le plus saintement possible, toute notre activité, toute notre bonne volonté, sans nous préoccuper du passé qui n'existe plus, ni de l'avenir qui n'est pas à nous. C'est conformer si bien notre volonté à la volonté et au bon plaisir de Dieu, qu'au moment même où nous sommes et à chaque instant, nous pouvons dire en toute vérité, je suis où Dieu me veut. J'accepte et j'accomplis ce qu'il me demande comme il me le demande. Le moment présent est toujours en effet comme un ambassadeur qui nous apporte l'ordre de Dieu, à qui tout est moyen et instrument de sainteté pour ses élus. C'est réaliser sans aucune interruption dans notre vie les admirables paroles du Pater, notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc voilà, après il continue encore, mais c'est, je pense que j'ai dit l'essentiel. Autre image qu'il prend, c'est ressembler à l'aiguille d'une horloge qui marche bien régulièrement. Que diriez-vous d'une aiguille d'horloge qui serait à 10h ou à 2h quand il faudrait être marqué midi? L'âme fidèle à bien sanctifier le moment présent ne se permet ni de devancer, ni de laisser passer l'heure de Dieu. Elle la marque en la sanctifiant, en s'y fixant par le parfait accomplissement de tout son devoir. Une nouvelle image, c'est nous conduire de telle sorte que toujours notre cœur batte à l'unisson avec le cœur de notre Seigneur et que notre vie soit sans interruption au diapason de la sienne. Quelle sera donc la devise de cette âme? C'est celle qui tombait un jour d'élève de notre Seigneur qu'en pensant à son Père, parlant de son Père, il disait « Je fais toujours ce qui lui plaît ». Oh, la belle devise que celle-là, mon Dieu, je veux que ce soit la mienne, faites que jusqu'à mon dernier soupir, j'y conforme entièrement ma conduite. Donc, vous voyez, vivre, sanctifier le moment présent. Souvent, on alourdit sa croix en pensant à celle passée et celle future. Ouais, ça fait 20 ans que je supporte, je n'aimerais jamais le supporter encore 30 ans de plus. Alors bien sûr, si vous portez les 20 ans passés, les 30 ans futurs, ma pauvre, courage. Non, c'est j'arriverai au moins à tenir jusqu'à ce soir. On verra demain. C'est comme ça qu'il faut faire. Dans l'Ancien Testament, on voit cela. Le bon Dieu, vous voyez, donnait la manne. La manne, c'est la nourriture qui tombait dans le désert pendant que les Hébreux avançaient vers la terre promise. La manne tombait au jour le jour. Et juste pour le sabbat, il ne devait pas travailler le jour du sabbat. À ce moment-là, donc le vendredi, elle tombait pour 2 jours. Dieu voulait montrer par là qu'il donnait sa nourriture au jour le jour. C'est ce qu'on dit dans notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. La nourriture spirituelle, c'est la même chose. Donc, sanctifier le moment présent. Ensuite, accepter la croix inhérente à notre devoir d'État. C'est important d'aimer son devoir d'État, aimer son état de vie. L'état concret dans lequel vous êtes, aimer à habiter dans telle maison, avec tel mari, tels enfants, c'est très important. Parce que si vous prenez toujours à rêver à autre chose, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour vous et ce n'est pas bon pour votre âme. Ce n'est pas du tout ce que le bon Dieu veut. C'est finalement refuser la croix que le bon Dieu vous donne. Saint François de Sales disait « Les religieux voudraient chanter le cantique des pasteurs et les mariés celui des religieux. » Afin, disent-ils, de pouvoir mieux aimer et servir Dieu. Et vous vous trompez, mes chers amis. Oh, ne dites pas que c'est pour mieux aimer et servir Dieu. Oh non, certes. C'est pour mieux servir votre contentement, lequel vous aimez plus que le contentement de Dieu. Et il prend un exemple. La volonté de Dieu étant la maladie aussi bien, et presque toujours mieux que quand la santé. Quand on est malade, eh bien, c'est encore la volonté de Dieu. Que si nous aimons mieux la santé, ne disons pas que c'est pour servir Dieu davantage. Car qui ne voit que c'est la santé que nous cherchons en la volonté de Dieu, et non pas la volonté de Dieu en la santé. Donc, il faut accepter son état concret dans lequel nous sommes. Dans lequel nous vivons. Donc se dire que les meilleures croix sont celles qu'on ne choisit pas. Enfin, c'est vous qui l'avez choisi en l'occurrence. Mais...
j'espère.
Donc, être réaliste, ne pas vivre avec des si. Si mon mari était plus coopérant, si j'avais telle situation, si je n'avais pas des enfants si difficiles. C'est vrai que si vous n'avez pas tout cela, la vie serait sans doute plus belle. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le paradis terrestre, il est fermé depuis un moment. Alors, en conclusion, je vous livrerai là un chapitre de l'imitation de Jésus-Christ qui dit qu'il faut rapporter tout à Dieu comme à notre dernière fin. Jésus-Christ, mon Fils, je dois être votre fin suprême et dernière si véritablement vous désirez être heureux. Cette vue purifiera vos affections qui s'abaissent trop souvent jusqu'à vous et aux créatures. Car si vous vous recherchez en quelque chose, aussitôt vous tombez dans la langueur et la sécheresse. Rapportez donc principalement tout à moi, parce que c'est moi qui vous ai tout donné. Considérez chaque bien comme découlant du souverain bien, et songez que dès lors, ils doivent tous remonter à moi comme à leur origine. En moi, comme dans une source intarissable, le petit et le grand, le pauvre et le riche puisent l'eau vive, et ceux qui me servent volontairement et de cœur recevront grâce sur grâce. Mais celui qui cherchera sa gloire hors de moi, ou sa jouissance dans un autre bien que moi, sa joie ne sera ni vraie ni solide, et son cœur, toujours à la gêne, toujours à l'étroit, ne trouvera que des angoisses. Ne vous attribuez donc aucun bien, et n'attribuez à nul homme sa vertu, mais rendez tout à Dieu, sans qui l'homme n'est rien. C'est moi qui vous ai tout donné, et je veux que vous vous donniez à moi tout entier. J'exige avec une extrême rigueur les actions de grâce qui me sont dues. Ceci est la vérité qui dissipe la vanité de la gloire. Là où pénètre la grâce céleste et la vraie charité, il n'y a plus de place pour l'amour propre ni pour l'envie qui torture le cœur. Car l'amour divin subjugue tout et agrandit toutes les forces de l'âme. Si vous écoutez la sagesse, vous ne vous réjouirez qu'en moi, vous n'espérerez qu'en moi, parce que nul n'est bon que Dieu seul, à qui, en tout et par-dessus tout, est dû à jamais la louange et la bénédiction. Voilà, nous rendons à la chapelle.